Radio Okapi, grand témoin. Coordinateur national des écoles conventionnées catholiques, le révérend abbé Georges Moutipaï est aujourd'hui l'invité de grand témoin. Abbé Georges Moutipaï, soyez le bienvenu.
Merci bien.
Comment allez-vous?
Ça va, on tient le coup, avec la grâce de Dieu.
Vous avez une expérience de plus de 35 ans dans l'enseignement. Avec vous, nous ferons le point de ce secteur à quelques jours de la prochaine rentrée scolaire. Abbé Georges Moutipaï, coordinateur des écoles conventionnées catholiques, où avez-vous fait vos écoles primaires et secondaires?
Écoles primaires et secondaires dans le Kassai occidental, d'abord dans une des grandes missions du Kassai occidental qui s'appelait Kabulwanda, qui a d'ailleurs accueilli beaucoup de nos évêques du Kassai. Alors, après mon école primaire, ce côté-là, j'ai pas terminé la sixième. Je suis allé la terminer à 18 km, donc à Benaleka.
Et pourquoi?
Parce que vers ces années-là, 60, il y avait un peu ce mouvement que l'on constate aujourd'hui, les originaires ne voulant pas que ceux qui n'étaient pas originaires restent sur les lieux. Alors, on était pratiquement obligés à l'époque, mais enfin, il y avait une autre raison, c'est que mon père venait de quitter Kabulwanda pour Benaleka, où il avait un petit service pour pouvoir nous aider à survivre, quoi.
Et les études secondaires?
Les études secondaires, je les ai commencées au grand collège, Collège Saint-Louis. J'ai fait la première année, et la deuxième année, je l'ai poursuivie au petit séminaire de Kabwe. Et j'ai terminé vers les années 72, nous étions en 67, en deuxième, et nous avons terminé à 27.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser le sacerdoce,
la
vie religieuse?
C'est une très longue histoire.
En résumé.
Ah oui, en résumé, c'est que quand j'étais au collège, mon grand frère voulait aller au séminaire. Quelque temps après, j'apprenais qu'il n'allait plus partir. Et moi, je dis, attraction modale, je suis parti. Mais tout s'est dessiné tout au long de ce parcours. C'est, je crois, en quatrième année que finalement ma vocation s'est plus ou moins déclarée. À partir de certaines lectures que je faisais, des brochures, j'ai été marqué par la vie de Don Bosco. Alors, en 70, je suis allé faire un petit tour à Lubumbashi, et là, j'ai rencontré les Salésiens, et quand j'ai terminé les humanités, je suis allé directement à Lubumbashi, où j'étais accepté au postulat. La première année de mes vœux temporaires, mes premiers vœux, ça n'a pas marché. Les Salésiens m'ont dit que j'étais bon pour le diocèse, non pas pour la vie salésienne, et à ce moment-là, j'étais déjà à l'ISP Lubumbashi.
Alors, Demba, au Kassai occidental, est le lieu de votre naissance, exactement le 20 avril 53. Quel genre d'enfant étiez-vous et quels souvenirs vous gardez de votre enfance?
Je sais tout simplement, ce sont les déclarations de ma mère, que quand je suis venu au monde, elle a beaucoup pleuré parce qu'on m'avait ravi de son berceau et toute la journée a commencé à me chercher. Le père qui était là-bas, Demba, disait « Non, ce petit, nous allons l'envoyer en Europe, ce n'est pas votre enfant. » Elle a pleuré toute la journée, puis finalement, on lui a rendu son enfant. Demba, donc c'est à peu près 60 km. Après, nous sommes rentrés à Kabulwanda, à notre mission natale. Et c'est là où j'ai vécu avec mon père. Je me ressemble beaucoup avec mon père. Il semble que j'étais très, très aimé. Et il ne supportait pas qu'on mette la main sur moi.
Alors vous gardez le souvenir d'une enfance heureuse.
Une enfance vraiment heureuse.
Que signifie votre nom, Moutipaï?
C'est le nom de un de mes grands-pères. Je ne sais pas, on me l'a donné. Sa signification peut certifier plus d'une personne. Moutipaï signifie maudissez-le.
Ah bon?
Oui, c'est ça que ça signifie. Maudissez-le, Moutipaï. Moutipaï, ça veut dire maudire. Alors, Moutipaï, c'est, on a conjugué, l'impératif, maudissez-le, voilà.
Et comment vous supportez le poids de ce nom?
Oh non, je trouve que ce n'est pas un nom qui correspond quelque part à certaines circonstances, comme nous le constatons ici chez nous, qu'on donne le nom d'après les événements. Ça n'a rien à voir avec les événements, moi c'est un nom que je porte de mon grand-père. Et des fois, quand je le prononce, les gens disent, comme vous venez de citer, oui, là, je ne suis pas eu, mais je ne pense pas que j'ai été maudit.
Dans votre CV, on peut lire sur la rubrique loisirs et hobbies, sport, musique et lecture. Quel genre de sport avez-vous pratiqué? Quel genre de musique aimez-vous?
J'avoue que j'ai fait un peu de tout dans ma vie. Au petit séminaire, j'étais grand footballeur, j'étais grand basketteur, j'étais capitaine de basket. J'ai joué à presque 3 ou 4 postes au football. Au volley, je me débrouillais très bien. En ce qui concerne les loisirs, le ping-pong, j'étais presque champion au petit séminaire de Kaboué. Et que ce soit en athlétisme, je savais très bien courir. Je dois dire que j'étais quand même doté de bien de talent.
Ah bon, et la musique?
Alors la musique, j'ai appris beaucoup d'instruments. Quand nous étions au petit séminaire, on commençait par la flûte.
Mmh.
Après la flûte, mélodica. Après mélodica, accordéon. Et puis il y avait le xylophone. Je suis passé par tous ces instruments-là. Et déjà, en troisième année, j'étais appelé à accompagner les messes, les saluts, salut au Saint-Sacrement. J'accompagnais ça à l'harmonium. Et ça faisait tiquer tout le monde que déjà, à cet âge-là et à cette étape de ma formation, je savais me débrouiller.
Est-ce que vous avez encore le temps pour toutes ces choses aujourd'hui? Le sport, la musique?
Le sport, je dois dire que j'ai quand même un peu abandonné au compte tenu de mes activités. Quant en ce qui concerne la musique, je suis resté plus musicologue, mélomane, j'écoute. Le soir, quand ça me donne un peu envie, je vais jouer au synthé. J'ai encore un synthétiseur.
Et vous n'avez pas perdu les rythmes?
Quand je m'y mets, je me rends compte que ça revient tout seul.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable du syndicat, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir des 7h, heure de Kinshasa.
Révérend Tadé Georges Moutipa, vous êtes le coordinateur national des écoles conventionnées catholiques. Parlez-nous de vos études supérieures et universitaires.
J'ai terminé mon petit séminaire vers les années 72. Après, je suis allé donc à Lubumbashi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, comme les Salésiens s'occupent de l'éducation de la jeunesse, essentiellement, quand nous avons prononcé nos premiers vœux, nous avions été orientés à l'ISP Bukavu et Lubumbashi plutôt. On sortait de la régence à l'époque. Donc, c'est dans les années 74 que je suis entré à l'ISP. L'année après, comme je vous l'ai expliqué au début, les Salésiens m'avaient demandé de rentrer dans mon diocèse. Mais j'étais fait pour terminer quand même l'ISP. Après, je devais rentrer dans mon diocèse. Entre-temps, j'avais présenté le concours de licence et j'avais reçu le concours de licence. Quand je suis entré au diocèse, j'ai vu mon ancien directeur du séminaire qui me dira, comme tu as réussi au concours, avant de commencer, de poursuivre les études pour la prêtrise, vous ferez mieux d'aller terminer votre licence. Vous gardez contact avec vos anciens encadreurs du séminaire. Je suis allé à Bukavu, où j'ai terminé la licence. Donc, disons, le graduat, c'était histoire et géographie. Et la licence, j'ai terminé en géographie, à Bukavu. Entre-temps, j'ai resté en contact avec mes supérieurs et les responsables ecclésiastiques, ce que j'ai compté pour ma réintégration dans le séminaire. Malheureusement, mes lettres restaient mortes. Et quand j'ai terminé l'ISP Bukavu, j'ai donné cours à Ibanda. Alors après, un de mes grands frères qui était ici à Kinshasa, dit non, tu ne devais pas faire l'ISP parce que dans le temps, on ne prenait pas tellement en considération les études supérieures dans les ISP. On préférait plutôt être au campus, à l'université. Il avait déjà pris des contacts pour que je fasse la médecine ici à Kinshasa. Et c'est sur le chemin de Bukavu vers Kinshasa que, je dirais comme Saint-Paul, j'ai été détourné. Mon oncle paternel me dira, mais il y a un évêque qui vous attend là-bas pour le séminaire. Et voilà, je me suis retrouvé à Louisbo, à Lunkelo plus précisément, et c'est là où l'évêque de la place me demandera de passer une année probatoire. J'ai passé cette année probatoire, et à la fin, il avait déjà projeté m'envoyer au Canada. Malheureusement, les démarches pour le Canada, c'était trop dur comme maintenant d'ailleurs, et j'ai fait un atterrissage poussé à Paris, où lui-même avait fait les sciences sociales, et c'est là où j'ai fait les études ecclésiastiques de philosophie et l'UR de théologie.
Après, vous passez par les facultés catholiques où vous ferez la théologie morale.
Voilà. Alors, donc, après Paris, je suis rentré pour l'ordination. J'étais ordonné prêtre et on m'a confié la responsabilité de m'occuper toujours comme préfet.
Monsieur l'abbé Georges Moutipaï, en 1994, le sujet de votre mémoire de licence en théologie morale aux facultés catholiques de Kinshasa est problème éthique de la démocratisation de l'enseignement au cas des établissements scolaires privés, niveau maternel, primaire et secondaire, ville de Kinshasa. Quels sont ces problèmes?
Parce que les problèmes que nous continuons encore à connaître aujourd'hui, vous savez que vers ces années-là, 90, c'est pratiquement toutes les personnes qui avaient vu qu'il y avait à boire et à manger dans l'enseignement et qui ouvraient des écoles, même des maisons d'habitation étaient considérées comme des écoles, comme aujourd'hui d'ailleurs, où les enfants ne savent même plus se mouvoir. Ils ont juste des blocs de ciment, ils sont là-dedans et on oublie qu'un enfant devrait plutôt recevoir une éducation intégrale. Pas seulement l'instruction en la matière qu'il reçoit dans les classes, mais pouvoir s'épanouir sur tous les plans, physique, moral, etc. Alors cet espace manque. J'ai eu à aborder un certain nombre de problèmes qui étaient donc liés à cette démocratisation. Voilà la démocratisation de l'enseignement. On dit tout le monde peut ouvrir une école. Il y avait des instructions officielles de l'État qu'il fallait respecter des conditions pour l'ouverture d'une école. Mais ça n'a jamais été respecté. C'est l'argent. C'est l'argent qui a parlé à tout moment et à des époques pour le moment. On voyait des écoles qui sont là ouvertes, mais qui ne remplissent pas les conditions requises pour pouvoir s'occuper de l'éducation de la jeunesse.
De 72 à 74, vous enseignez au CO Tambiki, là, à Lubumbashi, au Katanga, de 79 à 81, au collège Ibanda à Bukavu, on en parlait, et à l'institut Lunkelu à Luebo, de 94 à 96, vous êtes pressé chef d'établissement au complexe scolaire Minzoto Akhenaton à Kinshasa. À quel moment les conditions des enseignants congolais ont-ils commencé à baisser? Le révérend père Pierre Lecuy, coordonnateur des écoles jésuites en RDC, coordonnateur de la formation des collèges jésuites en Afrique et responsable des éditions Loyola, secteur manuel scolaire, répond à cette question. On l'écoute.
Très lentement, d'abord au début des années 70 et puis certainement jusqu'à 85, mais à ce moment-là, la baisse de la qualité de l'enseignement et des salaires a été de plus en plus notoire. Les causes, nous les connaissons tous. Il y a d'abord la corruption, les nominations basées sur des critères non professionnels, et puis l'influence des banques mondiales, Fonds monétaire international et des coopérations. C'est-à-dire que de plus en plus, ils ont mis des prêts, ils ont investi leur argent au Congo en demandant de rembourser des intérêts. À ce moment-là, le gouvernement a instauré ce qu'on appelle le SECOP, le service de la paie des enseignants, qui règne jusque maintenant, mais qui a fort limité, d'abord, qui a exclu de la plupart des écoles de l'intérieur tout le personnel, je dirais, de bureau, de secrétariat, de sentinelle, etc., le personnel administratif, et ne gardant ce personnel que dans les grandes villes.
Réaction à Béjorce, mon petit père.
Voyez-vous, je me suis retrouvé à l'étranger les années 80 jusqu'en 85, j'étais donc à Paris, je suis revenu, je ne pouvais pas connaître toutes les conditions dans lesquelles l'enseignant évoluait, mais effectivement, quand je me suis retrouvé comme préfet de Lunkelu, nous avons connu certaines difficultés déjà liées à la paix des enseignants, à l'assainissement, qui était intervenu d'ailleurs au début des années 80, 81, 82. Je crois que déjà à partir de ce moment-là, les conditions de travail de l'enseignant ont commencé à devenir un peu précaires. Mais ce n'est pas la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est allé crescendo, crescendo, donc dans le sens
de mal en pis.
De mal en pis, voilà.
De 97 à 2000, à Béjorce Moutipa, et vous travaillez comme coordinateur diocésain des écoles catholiques de Luebo. De 2000 à 2003, vous devenez coordinateur national adjoint des écoles conventionnées catholiques. Et depuis 2003 à ce jour, vous êtes le coordinateur national. Quelles sont, d'après vous, les faiblesses de l'enseignement en RDC?
Bon, les faiblesses de l'enseignement, c'est d'abord lié, comme je l'ai toujours dit dans mes interventions, je dis, la pièce maîtresse dans notre système éducatif, pas seulement le nôtre, mais même partout ailleurs, c'est l'enseignant. Et la grande faiblesse pour le moment, c'est le fait de n'avoir pas considéré cette pièce maîtresse et de s'attaquer aux problèmes qui sont des problèmes auxquels on peut s'attaquer, qui demandent, qui nécessitent des solutions. Mais, comme je l'ai toujours dit, votre affamé est la pointe dorée. Et puis un enseignant qui est affamé ne peut absolument rien faire devant les enfants. Il est clochardisé et il donne ce qu'il peut donner, c'est médiocre. Donc, cette faiblesse-là, c'est lié au personnel enseignant qui n'est souvent pas bien formé. Comment voulez-vous qu'on parle de formation si déjà l'enseignant qui est là ne s'est pas bien formé, et c'est le même qui l'a formé qui devient enseignant. Le cas de l'école primaire, les finalistes, les diplômés de la section pédagogique, ils ne sont pas bien formés. Donc, sous qualification, pas de motivation. Et puis, il y a tout un tas d'autres paramètres, d'autres facteurs que nous pouvons évoquer pour aboutir justement à la conclusion que notre système éducatif est en train de couler. Comme force, il y a d'abord déjà cette volonté, ce souci que les parents et les enfants ont de se former. Ils veulent bien se former, mais il y a justement toutes les conditions qui ne sont pas réunies pour qu'ils puissent bien se former. Aujourd'hui, les forces sur lesquelles nous pouvons compter, évidemment, nous parlons toujours des ressources et des richesses potentielles. Le Congo, c'est un pays potentiellement très riche. Si on pouvait mettre à profit toutes les richesses que nous avons en choisissant les priorités, dans tous les discours politiques, nous apprenons toujours que l'enseignement, c'est la priorité des priorités. Mais ça reste toujours un discours, j'allais dire, excusez-moi le terme, creux, parce que sur le terrain, on ne voit pas en quoi l'enseignement est priorité de priorité. Sous d'autres cieux, le budget alloué à l'enseignement, au Sénégal par exemple, c'est 40%. Au Cameroun, on arrive même à 25%. Pendant qu'ici chez nous, les plus optimistes, ceux qui ne veulent pas qu'on puisse s'attaquer aux décideurs, arrivent même jusqu'à dire qu'on est à 8%, alors que nous-mêmes, nous constatons que c'est vraiment en dessous de tout.
Vous le savez, à Bézor Somoutipaï, le paiement de la prise en charge des parents a été supprimé. À propos de cette prise en charge, le ministre de l'EPSP, Macaire Mwangu, souligne que ces frais sont prohibés et promet des sanctions aux récalcitrants. Toutefois, le ministre annonce qu'un certain nombre de décisions seront prises à ce sujet avant la rentrée scolaire 2008-2009. Avec Georges Moutifaï, il faut savoir qu'il y a déjà plusieurs écoles de la capitale qui demandent aux parents de verser les frais de scolarité pour les nouveaux inscrits et pour les anciens, les frais de confirmation. Les parents, eux, ne savent toujours pas s'ils doivent continuer à prendre les enseignants en charge ou pas, comme par le passé. Dans cette pratique de perception des frais de motivation des enseignants, c'est surtout le réseau d'enseignement catholique qui semble le plus indexé. Que répondez-vous à ces parents qui s'inquiètent encore?
Je réagis d'abord aux propos tenus par le ministre.
Je suis tout
à fait d'accord avec le ministre. Évidemment, le discours, c'est une chose et la pratique, c'est une autre chose. Nous avons vécu cette situation déjà l'année passée. Nous avons eu à dénoncer, nous avons eu à nous adresser au ministre lui-même pour demander de sanctionner. Son excuse de la sanction n'était jamais venue. Quant à ce qui concerne les préoccupations des parents, moi-même, je suis parent. Je suis parent parce que j'ai hérité de l'éducation de mes neveux, de mes nièces, à la suite des décès de mes frères, de mes sœurs. Je sais que les parents souffrent beaucoup. À quel fin vont-ils se vouer si, ici et là, on demande des frais qui parfois sont exorbitants? C'est souvent lié à ce que nous sommes tous en train de décrier. Quand vous allez dans une école comme Boboto, ou Kabambare, ou les grandes écoles, quand ils demandent de l'argent, on va vous dire que c'est pour autre chose, ça n'a rien à voir avec la motivation. C'est faux. C'est parce qu'on veut motiver l'enseignant. Si on résout le problème du salaire de l'enseignant, le problème de la motivation va se terminer de lui-même.
Mais ce sont des écoles que vous gérez. Qu'est-ce que vous faites pour mettre fin
à ça? L'abbé Georges Moutipaï, il est coordinateur national des écoles conventionnées catholiques, délégué par l'épiscopat congolais auprès du ministère de l'Éducation pour coordonner les activités des écoles qui nous sont confiées pour gestion. Il reçoit les instructions du ministère, il les transmet à la base. Il reçoit les directives de l'épiscopat. Il est transmis à la base. Maintenant, il faut voir comment ces instructions, ces directives sont appliquées. Quand elles ne sont pas appliquées, à un point comme à un autre, le coordinateur national n'a pas le pouvoir du ministre, par exemple, d'exclure un directeur, bon, on le change, ou etc. Il y a un tas de procédures pour ça. Le coordinateur national, son rôle se réduit à l'information. Je donne l'information à l'évêque du lieu. Voilà ce que j'ai constaté. Après avoir causé avec l'intéressé, parce que au niveau national, l'échelle qui vient juste après moi, c'est le niveau provincial. Je vais traiter avec le provincial. Je lui dis, voilà ce que j'apprends. Qu'est-ce qu'il a mis? Si à la base, plutôt, je constate qu'il n'y a rien de fait et qu'il y a effectivement entêtement de la part du coordinateur provincial, je saisis l'évêque du lieu. Et c'est l'évêque qui prend la sanction.
En laissant le soin de payer les enseignants, s'il arrivait par exemple que le gouvernement ne soit pas en mesure d'honorer ses engagements, comment allez-vous réagir face à ce blocage?
Dans un premier temps, je trouverais quand même dommage, triste que le gouvernement n'arrive pas à honorer ses engagements. Il y va de la vie même de la nation, de l'avenir de notre pays. Les cadres de demain se forment aujourd'hui. Qu'un gouvernement puisse dire « je ne suis pas en mesure de prendre cette responsabilité » en déclarant par ailleurs que l'éducation c'est la priorité des priorités, il y a là une question qu'on peut se poser. Hein? Alors, qu'on ne nous dise pas que le gouvernement, je n'aimerais pas accepter ça hein, en ce qui me concerne. Je reste encore optimiste pour dire qu'un jour ou un autre, il y aura un sursaut d'orgueil pour que ce gouvernement dise « le Congo, c'est un grand pays. Nous devons en faire effectivement un grand pays en favorisant ce secteur qui forme des cadres qui feront en sorte que ce pays soit effectivement grand. »
Abbé Georges Moutifaï, comment la coordination des écoles conventionnées catholiques, qui a quand même 43% des écoles, a-t-elle reçu la publication des résultats des examens d'État sur Internet? Est-ce une avancée?
Moi-même, j'étais surpris parce que depuis des années, je suis membre du jury de délibération de l'examen d'État. Je ne sais pas quand la délibération avait eu lieu. Nous n'avions jamais été contactés à ce sujet. Et comme tout le monde, j'ai appris que le résultat était sorti sur l'Internet. C'est seulement la fin de la semaine passée que j'ai réussi à accéder à ce site-là pour pouvoir consulter les résultats. Je les ai consultés. C'est une bonne chose. C'est une bonne innovation. Hein, arriver à faire sortir ces résultats à temps pour que les enfants se préparent et les parents eux-mêmes, pour ceux qui doivent aller à l'université, etc. C'est une très bonne chose. Ça, c'est une paire de manches. Mais maintenant, en analysant les résultats tels que c'est sorti, il y a quand même des choses à redire. Nous avions l'habitude, avec le journal, ça va sortir les codes, nous ne savons pas, d'identifier, rien que à partir des codes, identifier les écoles conventionnées catholiques.
Monsieur l'abbé, excusez-moi, nous allons être plus pratiques.
Oui.
J'ai imprimé les résultats.
Oui.
Je vous en donne une copie. C'est la section éducation physique que nous avons imprimée sur le site du ministère. Je vous remets une copie.
Oui.
Et nous allons ensemble décrypter ce que vous êtes en train de dire.
Oui. Donc, je disais, en analysant, je vois qu'il y a juste l'école à côté, province, code, centre, école. Mais il y a autre chose qui manque, c'est le code même des écoles, des différents régimes de gestion. Ces codes ne sont plus repris.
Vous n'êtes pas le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. On sait qu'à un certain moment, on avait l'habitude pour les finalistes qui voulaient s'inscrire à l'université d'amener le journal ou une photocopie du journal. Est-ce qu'on peut amener une feuille telle que je l'ai imprimée là? Est-ce qu'on peut amener dans une université se faire inscrire?
J'imagine que non. Je crois qu'il y a des dispositions qui vont être prises pour que soit on délivre directement le diplôme au candidat, ou alors, s'il faut s'en tenir au journal, eh ben, que ce journal soit imprimé. Je crois qu'il y a eu, je crois qu'on a donné des garanties comme quoi le journal allait sortir. Nous attendons.
La guerre a failli, je crois qu'il est temps d'accepter la paix. Congo, zéro, indépendance. France, 40 ans après, Congo, on suit une référence. France, c'est la famille humaine, et ses conséquences, souffrance, larmes, sang, en abondance. C'est une façon de s'accepter avec nos différences. France, divergence d'opinion ou d'appartenance. Un groupement ethnique ou politique, sans pour autant faire allégeance à la violence. France, sans barrière à la guerre, c'est exigence. Valorisant l'homme et son entourage, leur pleurer la peau, qui dépend de notre existence, le gamme de notre part d'une réelle vigilance. La guerre nous a détruits dans tous les sens, l'essence, c'est la paix et la vigilance. Le 4 avril 1990, justice, démocratie, s'installe le peuple pris. Joie, assurance d'une meilleure vie. D'un futur où le Congo sera rapide. Plus que le développement, c'est un défi. Pour leur effet, il faut être unis. La guerre excluant, la paix du menu. Le Congo et l'humanité ne trouveront jamais les saluts. Sans la paix, frère, venons tu le sais. Les flammes comme Noé accueillent l'oiseau de la paix. La guerre a failli, frère. Acceptons tous la paix.
Monsieur l'abbé Georges Mutipay, nous tendons vers la fin de l'émission, à la veille de la rentrée scolaire. Pour clôturer cette émission, quel message pouvez-vous adresser aux parents qui vous suivent?
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. On leur demande beaucoup de sacrifices et je suis prêt à les leur demander de tout cela au bénéfice de leurs enfants.
Quel genre de sacrifices?
Vous savez, quand il faut se faire de l'argent, il faut le trouver quelque part, il faut travailler. Ils doivent trouver de l'argent pour acheter d'abord à manger à leurs enfants, acheter des cahiers, acheter des uniformes, acheter des livres, des manuels. Tout ça, ce sont des sacrifices qu'il faut consentir. Quand vous mettez le paquet sur tout ce qui est fourniture scolaire, etc., vous voyez que quelque part, vous allez grignoter le fonds qui pourrait peut-être servir à nourrir tout le ménage, toute la famille. Mais on le fait pour ces enfants-là pour qu'ils s'étudient. Il y a beaucoup de sacrifices que les parents consentent. Ils peuvent même pas se permettre de s'acheter un pantalon ou une chemise chaque mois. Ce sont des sacrifices. Compte tenu de la situation, je leur demande de continuer à déployer tous ces sacrifices-là pour le bien de ces enfants qui sont venus au monde, qui n'ont pas demandé à venir au monde, mais qui doivent être encadrés jusqu'au bout. Mais qu'ils soient conséquents.
C'est-à-dire?
Ça, je le leur demande. Qu'ils soient conséquents. Quand il y a des enseignants quelque part qui sont en train de revendiquer leurs droits auprès de leur employeur, je n'aimerais pas voir ces parents qui viennent décourager ces enseignants dans leur revendication de leurs droits légitimes. Ils s'interposent en disant « Non, l'État n'a pas les moyens, venez, nous allons payer. » Parce qu'ils ne veulent pas que les enfants restent à la maison. C'est un mauvais calcul qu'ils font. Parce que une fois que ces enseignants acceptent de reprendre les cours, s'ils avaient débrayé, s'ils avaient décrété un arrêt de cours, une fois qu'ils reprennent, les gestionnaires sont là pour dire « Mais les parents ont dit qu'ils allaient payer. » Et ils remontent. Ils leur disent, mais nous attendons que vous puissiez payer. 2 semaines après, ils commencent à chasser les enfants. Et ce sont les mêmes parents qui commencent à nous appeler. Monsieur l'abbé coordinateur, dans vos écoles on fait ceci, dans vos écoles on fait cela. Il faut qu'ils soient conséquents. Donc, qu'ils laissent chacun jouer son rôle. Et qu'ils essayent, à leur niveau aussi, de revendiquer les droits qui sont les leurs. Parce qu'ils ne sont pas payés d'ailleurs. Ils ne sont pas très bien payés. Que ceux qui réclament leurs droits, qu'ils les laissent revendiquer leurs droits.
Monsieur l'abbé Georges Mutipay, cette rentrée scolaire qui s'annonce dans quelques jours, sera-t-elle apaisée?
Il n'y a que le gouvernement qui pourra faire que la rentrée soit apaisée. C'est le gouvernement, parce que vous avez déjà un cahier de charges que les enseignants ont déposé, il y a entre autres les 2 mois de salaire impayé jusque-là, février et mars. Et puis, il y a d'autres revendications, la Cour de Mboudi, etc. C'est sur le bureau du gouvernement. Si le gouvernement arrive à trouver des solutions à ces revendications des enseignants, je suis sûr que nous aurons une rentrée scolaire apaisée.
Merci, monsieur l'abbé Georges Moutipaï, d'être venu en grand témoin.
Merci, c'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous m'avez accordé de participer à votre émission. Merci, Alain.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous recevions le révérend abbé Georges Moutipaï, coordinateur national des écoles conventionnées catholiques, à la technique et à la réalisation Mimi Kindou, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Businga, dans la province de l'Équateur et partout dans le monde.